Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. J'ai intitulé la chronique d'aujourd'hui « Quelques pèlerinages en basse marche », étant entendu que nous traiterons de la procession des 9 lieues de Magnac-Laval en mai et des ostensions du Dora en 2016. Pour cette séquence, j'ai fait appel pour les textes à Albert Gourceau, la Société Rurale en Limousin, à l'abbé Granet, son histoire de Bellac, à Michel Dominique, coutume et croyance à Blon, à Louis Peignot, de la vallée de Georges Sand aux collines de Jean Giraudoux et le bal des conscrits, à Pierre Valin, un ouvrage intitulé « Paysans rouges du Limousin » qui traite surtout de Comprignac, au bulletin du Dolmen Club de Bellac de l'année 1909, à Marie-Thérèse Blois, un article intitulé « Dévotion à Mézières-sur-Issoire », à Pierre Robert, le lieutenant général de la Sénéchaussée du Dora, à Georges Drouot, avec sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, et à Germaine Barito, avec les dévotions à Saint-Partout.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Contrairement à ce que nous pensons parfois, ces pèlerinages n'étaient pas toujours aussi religieux que ça. À cette époque où l'Église voyait que ni ses dogmes, ni son autorité n'étaient contestés, elle laissait aux fidèles des libertés que l'on a peine à comprendre aujourd'hui. La religion d'alors n'était point austère et triste. On ne faisait pas deux parts de la vie, l'une religieuse, l'autre mondaine, puisque la religion embrassait toute l'existence de l'homme. Pèlerinages étaient souvent des parties de plaisir, de bruyantes et nombreuses réunions où les marchands, les chanteurs ambulants, les saltimbanques ouvraient leur échoppe ou installaient leur tréteau. On ne se composait pas de visage pour entrer à l'église, car l'église était la continuation de la rue et la vraie maison commune. Un homme d'église, prêtre ou chanoine, était aussi mondain que les laïcs étaient aussi religieux que lui. C'est ce que nous indique M. Rambaud dans son histoire de la civilisation française, et vous l'allez voir, ou plutôt entendre, des pèlerinages religieux comme ceux de Bonnefonds à Berneuil, ou des Grands Chézeaux, ou de Saint-Pardoux, savent associer la foi et le commerce, et largement préfigurer les fêtes foraines que nous connaîtrons plus tard, où l'aspect religieux sera quasi gommé. C'est ainsi que les laïcs participent étroitement à ces processions religieuses pour leur imprimer un caractère sans doute moins religieux, mais plus populaire. Les laïcs participent souvent par le biais de confréries, des corporations ou des métiers.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans son histoire de Bellac, l'abbé Granet nous indique que réunis le 10 novembre 1684, les meuniers de Bellac résolurent de leur gré et volonté et pour le désir qu'ils avaient d'établir leur confrérie en l'honneur de Dieu et de Monseigneur Saint-Martin, leur patron. Et voici comment, à Bellac, la procession de Saint-Martin à la chapelle de la Ganne devient plus l'affaire des meuniers que des clercs. Souvent, les choses vont plus loin encore, puisque, nous dit Albert Gourceau, dans ces processions, on pratiquait les rainages. Le rainage, c'est la mise aux enchères au cours de la fête religieuse annuelle et l'adjudication aux plus offrants de droits et de titres divers, et notamment des dignités de rois et de reines locaux. Voyez qu'on est là fort loin de la foi et de la religion. Dans notre secteur, on pratique le rainage dans les paroisses de Maillac-sur-Benaise, de Château-Ponsac et de Bellac. Au début, ces enchères des rainages se firent en poids de cire. Puis, très vite, elles furent stipulées en argent. mais pour se procurer des ressources supplémentaires, en plus du titre de roi et de reine, les curés ajoutèrent un dauphin, une dauphine et même un Mailhac-sur-Benaise, un premier danseur, un escuyer tranchant, un tastevin, un porte-croix et même un mignon de la reine et un mignon du roi. Les fonds ainsi recueillis étaient utilisés pour le luminaire de l'église, l'entretien du mobilier et des bâtiments.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Parmi les processions de la Basse-Marche, on trouve d'abord les processions au Saint Guérisseur, au Saint Protecteur ou plus simplement au Saint Patron des paroisses. Et en voici quelques exemples avec Saint Martin. Et d'abord avec la procession de Saint Martin de Blon. Nous empruntons les informations à Michel Dominique dans Coutumes et croyances à Blon. Blon possède deux sources dédiées à Saint-Martin. La plus connue se tient dans le bourg et prend naissance dans le lit même de l'histoire. Une construction en pierre de taille surmontée d'une statuette de Saint-Martin en évêque fait face à l'abside de l'église. Cette fontaine recueille l'eau de la source et permet aux habitants de l'utiliser car elle est renommée pour sa limpidité et sa fraîcheur. L'autre, moins célèbre, simple trou bordé de pierre, forme un orifice circulaire de 50 cm environ et situé au carrefour des routes de Rousset et de Mortemar, tout près d'un champ où les débris de tuiles gallo-romaines sont nombreux. La fête patronale avait lieu le 4 juillet, jour de l'ordination de Saint-Martin. Aujourd'hui, et ce texte est écrit en 1963, cette fête est rapportée au dimanche qui suit, si toutefois le 4 juillet n'est pas un dimanche. Une procession importante se rendait à la fontaine Saint-Martin de la route de Rousset, et fait surprenant, les musiciens qui faisaient danser la jeunesse participaient à la procession et jouaient à l'église des hymnes religieux. Durant le parcours, l'assistance prononçait l'invocation suivante, « Saint-Martin, ayez pitié de nous, Saint-Martin, priez pour nous. » La procession était fort célèbre pour obtenir la guérison des douleurs et des rhumatismes. Aussi, l'eau de la fontaine était soigneusement recueillie pour frotter reins et jambes endoloris. En période de sécheresse, la procession de la Saint-Martin pouvait amener la pluie bienfaisante. Pour l'obtenir, il fallait tremper le pied de la croix processionnelle dans la fontaine. Une anecdote assez surprenante nous a été racontée à ce sujet. En 1908, l'été particulièrement sec faisait rage. Aussi invita-t-on le porteur de la croix à réaliser la pratique ci-dessus énoncée. Mais facétieux, il trempa non pas le pied de la croix, mais le Christ. En prononçant ces paroles entendues par bien peu de monde, les gens demandent de l'eau. Je crois qu'ils en auront leur aise. Effectivement, un violent orage surprit la procession sur le chemin du retour et la pluie tomba en abondance. L'après-midi, la procession religieuse se transformait, comme dans presque tous les cas, en une fête profane. La balado ou frérie, il y avait le bal des jeunes à l'auberge, les manèges entraînés par un bourricot poussif, la loterie, où l'on gagnait moult bouteilles de vin, la course en sac, la course aux grenouilles, la course à l'œuf. Nous consacrerons plus tard une chronique à ces jeux, à ces fêtes et frairies en Basse-Marche. Il existe en Basse-Marche bien d'autres processions à Saint-Martin, à Saint-Martin-de-la-Gane, à Bellac, au pont Saint-Martin, à Saint-Bonnet-de-Bellac, à Saint-Martin-d'Insac, à Saint-Martin-de-Dompierre-les-Églises, à Saint-Martin-de-Comprégnac, à Saint-Martin-de-Genouillac, de Saint-Symphorien-sur-Couze, dont nous parle maintenant Louis Peignot.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Le bon saint est bien beau, trop peut-être, mais il est resté toujours compatissant aux pauvres humains. Les mères, affligées, viennent toujours lui demander la guérison de l'enfant malade. Elle dépose sur la croix sa chemise, ses bas, une mèche de ses cheveux, une brassière. Pour intéresser le bon saint à la prospérité des troupeaux, elle lui offre quelques brins de laine des brebis, une touffe de poils roux de leur vache, le tout soigneusement enveloppé dans une feuille de journal de Limoges. Le chapelet à la main, elles suivent le chemin rituel de la procession qui les mène de la chapelle du fond de la vallée à la source du haut du ravin, car le culte du saint a dû, au cours des âges, se déplacer pour des commodités d'accès. Tout en haut du ravin de Saint-Martin, une source jaillit et ne tarit jamais. Elle est en bordure du vieux chemin qui vient de Seuil, sur le versant ouest, descend par ce vallon et s'en va vers Lavalette, vers le sud-est. Chemin bien vieux, antique voie des pèlerins, peut-être qui trouvaient dans ce ravin étroit de l'eau fraîche, des ombrages reposants et un asile pour la nuit. Que de mystère encore. La procession passe tout à côté d'un étrange bloc de pierre encastré dans la muraille de pierre sèche, qui sépare deux champs. Devant elle, tout le monde s'arrête puis s'agenouille. Elle est curieusement façonnée. Une rainure quelque peu profonde s'allonge entre deux cavités creusées, elles aussi à même le bloc. Celle du haut reçoit la rotule du genou, tandis que la pointe du pied s'engage dans celle du bas. Sa longueur correspond à celle de la jambe inférieure d'une personne adulte. Ne s'agirait-il pas là d'une pierre sacrée ? Qu'importe. Elle se révèle plus d'une fois efficace et plus d'un rhumatisant à son contact est reparti, soulagé, en chantant les louanges de Saint-Martin.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Voici maintenant quelques processions du printemps. Et parmi les processions du printemps, celles à Sainte-Trope sont les plus célèbres. Sainte-Trope, venue pour évangéliser la Saintonge, serait-il passé en Limousin ? En patois, on le nomme Saint-Étropie ou Saint-Estropie, ce qui a pu faire croire qu'il était le patron des estropiés, des handicapés physiques. Mais il avait bien d'autres spécialités qui dataient d'avant le christianisme. Au Grand Chézeau avait lieu dans le passé le 1er mai, lendemain de la Sainte-Trope, une procession pour la bénédiction des bestiaux. La chapelle des Landes à Saint-Julien-les-Combes, connue aussi sous le nom de chapelle Sainte-Trope, fondée en 1460, elle fut reconstruite en 1846, si on y invoquait la guérison des personnes et des animaux, les jeunes filles qui veulent se marier s'y rendent, et après une longue procession, elles font plusieurs fois le tour d'une croix en y attachant une jarretière de laine qu'elles ont à la jambe gauche. Et Albert Gourceau de nous indiquer que cette croix était toujours abondamment garnie. À Népoula, dans la commune de Comprégnac, la procession à la fontaine était destinée au soulagement de tous les estropiés. Et Pierre Valin, dans son ouvrage « Les paysans rouges du Limousin » précise « Témoin de cette croyance venue d'un lointain passé, un passé bien antérieur à la chrétienté, le pèlerinage de Sainte-Trope à Népoula, il s'agit de venir vénérer une fontaine placée sous la protection de ce saint à laquelle on attribue la vertu de guérir divers maux, surtout d'ordre moteur. Si la révolution a tout renversé, écrit l'abbé Leclerc, elle a été impuissante à détruire la dévotion à Sainte-Trope. Et chaque année, le 30 avril, une foule immense vient l'invoquer. Les nombreux pèlerins ne sont pas seulement les habitants des environs, mais encore de Limoges et de paroisses bien plus éloignées. Si leur foule ne diminue jamais, c'est que bien des faveurs ont été obtenues par l'intermédiaire de ce saint. C'est ce qu'affirme la semaine religieuse de Limoges de 1894. L'abbé Leclerc, fin de croire à la conformité du pèlerinage avec la religion catholique, alors que les rituels de Sainte-Trope, immersion, aspersion, exposition de hardes souillées, dévotion par procuration, s'apparentent plutôt au paganisme. Après la Révolution, on verra qu'un dénommé Léonard Déliot s'empare de la statue et ne la montre que moyennant finance. On verra aussi que l'église va construire une nouvelle chapelle ou encore que des rames spéciales du tramway fonctionneront chaque 30 avril pour se rendre à Népoula. C'est dire l'importance de l'affaire lorsque certains élus proposeront plus tard d'interdire ces pèlerinages au début du XXe siècle.
Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre, voici la Saint-Jean d'été, voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre, voici la Saint-Jean d'été, mon cheval est déferré.
Maintenant, quelques processions des mois de mai et des mois de juin. Et on s'en doute, les processions de mai-juin vont essentiellement être consacrées à la Saint-Jean. Mais là encore, on va voir qu'elles sont souvent bien profanes. C'est le cas pour la procession de la Font-Vigneau dans la commune des Grands-Chézeaux, où le 6 mai, on conduit le bétail pour assurer sa protection. À Droux, on vient également invoquer la procession des moutons. Dans cette commune, nous dit Albert Gourceau, existe un lieu-dit, la Commanderie, une sorte de petite chapelle où l'on voit Saint Jean-Baptiste, un agneau à ses pieds. Et tous les ans, un prêtre vient y célébrer la messe le 6 mai. En arrivant, les pèlerins coupent une branche de noisetier dans la propriété et assistent dehors, en raison de l'exiguïté du local, à l'office, puis procèdent à leur dévotion. Ils font plusieurs fois le tour de la chapelle en s'efforçant d'introduire dans les trous de la maçonnerie ou bien encore entre celle-ci et les gouttières de zinc descendant du toit des feuilles de noisetier et de minuscules paquets confectionnés à la maison contenant une touffe de laine. Les pèlerins font ensuite le tour des bâtiments du propriétaire, reste probable d'une ancienne commanderie de Templiers, d'où le nom du lieu dit, et reviennent à la chapelle où ils font brûler un cierge.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
La procession de la Saint-Jean le 24 juin à Berneuil était encore plus profane. Voici la relation faite dans le bulletin du Dolmen Club de Bellac de 1909. Le 10 jour, 24 juin, de toutes les communes environnantes, on se rend, à l'instar des vieux Gaulois, au fond des bois, pour découvrir la clairière de Vieilles-Fonds et y faire les dévotions au bon saint protecteur de la contrée. Les bustes de Saint-Jean et de Saint-Blaise, provenant de l'ancienne chapelle conservée dans des maisons de Vieilles-Fonds, sont déposés sur un amas de pierres, dernière ruine d'une antique chapelle. La vertu principale de ce pèlerinage serait de guérir les enfants de la peur. Il y a des amusements pour la jeunesse, des marchands de vin, naturellement des vendeuses de cerises, on y danse, on y boit. Et autrefois, on allait se faire couper les cheveux par les barbiers ambulants. Les personnes pratiques y vont louer les domestiques pour la fauche des prés et la moisson. Il convient de signaler un complément obligatoire pour l'efficacité des dévotions, c'est de faire le tour d'un vieil arbre qui est un cerisier. Quand il tombe de vétusté et meurt, on le remplace par un jeune sujet. Passons maintenant aux processions de l'été. Et parmi ces processions, celle à Marie-Madeleine de la Plain de Tersanne. Dans la commune de Tersanne existe une chapelle rurale à Laplain. Au dire des spécialistes, c'est un exemple du plus pur style roman. Cette chapelle qui date du XIIe siècle fut chapelle de l'ancien prieuré de l'ordre de la Maison-Dieu de Montmorillon. Elle avait pour mission de garantir de la foudre et de la grêle, ainsi que de lutter contre la sécheresse. On y trouvait une sculpture en bois de Marie-Madeleine, dite aussi de Saint-Pissou. On y venait en pèlerinage, ainsi qu'à la source qui se trouve dans un pré près de la chapelle, pour obtenir la guérison des enfants qui souffraient d'incontinence. Pendant l'été, les dévotions à Mézières-sur-Issoire sont parmi les plus connues. Voici ce que nous en dit Marie-Thérèse Blois. Chaque année, fin juillet, se déroule dans la commune de Mézières-sur-Issoire la traditionnelle fête de Sainte-Anne, mélange de réjouissances populaires et de foi chrétienne. La célébration officielle a lieu le 26 juillet, jour de la Sainte-Anne, et le dimanche suivant, dans la petite chapelle qui lui est consacrée au lieu-dit Sainte-Anne, village situé à 2,5 km de Mézières-sur-Issoire. Ce même dimanche se tient la frairie de Sainte-Anne sur le champ de foire, au bourg. Vieille de plusieurs siècles, cette petite chapelle, qui avait une apparence assez vétuste, a été restaurée il y a environ 4 années par les bons soins du propriétaire, auquel la paroisse avait apporté une aide financière. Elle contient la statue de Sainte-Anne, très belle pièce de bois sculptée datant du XVIe siècle, et celle de Sainte-Catherine. Aucun autre objet pieux ni ornement n'altère maintenant la netteté du lieu saint. Jadis, une quantité de béquilles, de cannes, d'appareils orthopédiques divers, d'ex-voto de toutes sortes, très poussiéreux, attestaient du culte et de la vénération ancestrale de la population à la sainte. Ces objets ont disparu au moment de la remise en état des lieux. La messe du 26 juillet est suivie par un nombre variable de fidèles, mais le dimanche suivant, une foule considérable venue de tous les villages de la commune, du canton et des cantons voisins se presse dans la chapelle qui ne peut la contenir. La porte d'entrée largement ouverte ainsi que la petite porte latérale permettent de suivre la cérémonie. Après la messe, commence la procession qui se perpétue depuis des siècles. En tête, 2 jeunes filles portent la statue de Sainte-Anne parée d'une robe immaculée. Les fidèles suivent, implorant la sainte, en égrenant leur chapelet, chacun selon ses sentiments lui demande de protéger ses bêtes ou ses gens. Des poils sont accrochés après 2 croix qui jalonnent le parcours de la procession, long de 1,5 km environ, à travers prés et bois. On peut y voir également de petits rubans de couleurs différentes destinés à écarter la maladie des jeunes enfants ou à les sauver. Ils viennent très nombreux ce jour-là, dans les bras de leur maman. La procession se termine dans un pré, à quelques mètres de là, dans un petit enclos ombragé, coulent 3 sources miraculeuses, douées de nombreuses vertus, guérison des maladies nerveuses, des rhumatismes, des maladies de peau, etc. Un peu comme à Lourdes, et avec la même foi, la même dévotion, on vient tremper la partie malade dans cette eau qu'on boit, on repart, souvent guéri. Certaines femmes stériles voient accomplir leur désir de maternité après avoir imploré Sainte-Anne.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Quant à la procession à Saint-Étienne de Lussac-les-Églises, voici ce que nous en dit Pierre Robert, le lieutenant général de la Sénéchaussée du Dora. L'église de Saint-Étienne est recommandée pour tous les maux de test. L'on y va en dévotion le jour de la Saint-Étienne et le lendemain de Noël. Mais particulièrement, l'on y va en plus grande abondance de peuple le 2e jour du mois d'août, qui est la fête de Saint-Étienne, pape et martyr, et le 3e jour du 10 mois, qui est l'invention de Saint-Étienne, comme aussi les laboureurs y vont pour les maladies du grand bétail. Et Georges Drouot, dans sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, d'ajouter que la Révolution n'interrompit pas cette dévotion qui est bien plus faite pour guérir les maladies du bétail que pour prier Dieu. Il précise, le culte de Saint-Étienne est toujours, et nous sommes là au début du XXe siècle, fort en honneur et le pèlerinage est encore très suivi, surtout pour les enfants en bas âge. Et ce jour-là se réunissent à Lussac pour exploiter la crédulité des fidèles, tous les mendiants de 20 lieues à la ronde, qui constituent une vraie cour des miracles.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Terminons avec les processions de l'automne et de l'hiver, et d'abord avec les dévotions à Saint-Pardoux. Germaine Mariteau a écrit un récit fort précis de ces pèlerinages, dont voici quelques extraits. On vient à la Saint-Pardoux pour guérir les misères des humains, des aveugles, des infirmes, mais aussi celles des animaux. Pour ces dévotions, chaque famille délègue un ou plusieurs de ses membres. Mais, si pour une raison quelconque on ne peut se déplacer, il est toujours possible de confier l'exécution du pèlerinage à un intermédiaire, moyennant une légère gratification. En 1920, 50 centimes par dévotion suffisaient. Les dévotions ont lieu dans l'église, autour de l'église et autour de la place. Elles sont de deux sortes. La grande dévotion, réservée aux personnes et au gros bétail, et les petites qui ne concernent que les moutons. Mais ces règles ne semblent pas très strictes et chacun fait ce qu'il croit le mieux. Ainsi, certains pèlerins de Roussac et de Saint-Julien-les-Combes, venus seulement pour les animaux, font un grand tour pour le gros bétail, un petit pour les moutons, et terminent par un grand tour supplémentaire car, disent-ils, on ne doit jamais faire un nombre pair de dévotions. D'autres, venus de Château-Ponsac, après avoir fait une grande pour chaque membre de leur famille, font encore une petite pour chacun d'eux et terminent également par un grand tour supplémentaire. Les dévotions se font individuellement et en silence. Les hommes ont la tête nue et les femmes sont coiffées de chapeaux ou d'écharpes. Autrefois, elles se couvraient avec le capuchon de leur mante. Il y a un itinéraire précis. On doit allumer un cierge, toucher le mur de l'église avec la main droite et toucher les pieds de la statue de Saint-Pardoux avec sa main gauche et déposer sur l'autel des petits paquets de poils ou de laine des animaux. Germaine Mariteau nous indique en avoir compté plus de 50 en septembre 1965. Ces dévotions à Saint-Pardoux sont aussi le prétexte de grandes fêtes et prétexte à un grand commerce de bouche. Écoutons à nouveau Germaine Mariteau. Elle interroge alors l'ancien boulanger de Bessines. « Je m'étais installé à Bessines, nous dit-il, le 17 septembre 1888. Je fis alors ma première tournée à Saint-Pardoux, le 13 octobre suivant, le jour de la fête. Quel ne fut pas mon étonnement ce jour-là lorsque sur ma route d'arrivée, je vis tant et tant de petites voitures toutes semblables, toutes près les unes des autres, tirées par des petits ânes. La file s'allongeait sur plus de 1 kilomètre jusqu'aux 4 routes, et ceci sur toutes les routes. Pensez, on y venait de loin. C'est inimaginable. D'abord les habitants des 13 communes les plus proches, et combien d'autres, et de la Vienne. Beaucoup portaient leur pain, bien sûr, pain de seigle, pain de froment, mais il fallait tout de même fournir les miches. Quant à la viande, voici ce que déclare la bouchère. Les 3 principales auberges utilisaient en moyenne chacune un veau entier de 100 kilos, auquel il fallait ajouter plusieurs têtes, fraises et pieds de veau, 4 ou 5 oies, une 15aine de lapins, de 30 à 40 poulets, et combien de 12aines d'œufs et de boules de beurre et de viande hachée nécessaires à la confection de toute cette pâtisserie. Elle ajoute, on servait 2 repas aux pèlerins et aux familles et jeunes venus à l'eau balado à 10h et à 13h, et l'autre le soir à partir de 18h. On mangeait à la portion ou à table d'hôte. Vers 1920, à la portion, pour 1,50 francs, on n'avait qu'un plat. Au choix, soit ragoût, soit rôti avec des légumes. À la table d'hôte, le menu complet coûtait 3 francs, mais suprême raffinement, on avait droit à une serviette. Les chefs cuissots de Château-Ponsac, de Mortrolles et de Bellac rivalisèrent de compétences et inventèrent en 1925 une succulente tourtière qui devint célèbre sous le nom de pâté limousin.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Le pèlerinage de Saint-Sébastien de Rancon se tient, lui, en janvier. Saint-Sébastien est le patron des arquebusiers, des archers et chez nous, en basse marche, des conscrits. C'est ainsi qu'à Rancon, où se trouve une chapelle Saint-Sébastien, chaque année, le dimanche qui suit le 20 janvier, fête du Saint, la procession des conscrits consistait à transporter une statuette du saint décorée de feuillages de la chapelle à l'église, puis à faire l'inverse. Les conscrits viennent à Rancon pour implorer Saint Sébastien pour ne pas partir soldat. Et cela à une époque où le service militaire durait 7 années. Terminons avec les processions à la chapelle du Bois du Rat. Cette chapelle, qui s'appelait du Bois du Devant, dans la commune de Sieux, était la propriété d'un dénommé Ratier, d'où le nom qui lui est resté, la chapelle du Bois du Rat. Située au croisement des routes de Sieux-Arnac et de Montreuil-Sénart, elle est dédiée à Saint Jean l'Évangéliste et fut construite à la fin du XIIIe siècle. C'est une petite construction de forme rectangulaire, construite en grand appareil dans la tradition de l'abbaye de Gramont. Cette chapelle est le lieu d'un culte fort ancien pour obtenir la guérison du bétail. Les pèlerins doivent tourner 3 fois autour de la croix plantée devant la chapelle en tenant le montant de la main droite. Et ce montant est d'ailleurs usé par les frottements. Puis 3 fois autour de la chapelle, puis encore 3 fois à l'intérieur de la chapelle. Le pèlerinage a lieu le 6 mai, mais surtout le 27 décembre. Et la tradition indique également que les femmes qui souhaitent avoir un enfant doivent se frotter au bénitier de la chapelle. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche, consacrée à quelques pèlerinages en basse marche. Nous avons utilisé des textes d'Albert Gourceau, de l'abbé Granet, de Michel Dominique, de Louis Peignot, de Pierre Vallin, du Dolmen Club de Bellac, de Marie-Thérèse Blois, de Pierre Robert, de Georges Drouot, de Germaine Barito. Pour les illustrations musicales, nous avons fait appel au choral ou au groupe Maluzerne, Ultreia, Potsedone, Sensenonibos, Sourdeline, Le Rond des Épinettes, L'eau Saint-Marceau, et à Gabriel Fauré, que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle séquence. À bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h, avec petites et grandes histoires de la basse marche.